et que cette suite est omniprésente dans la nature. Le nombre de pétales d'une fleur se trouve dans la suite de Fibonacci. La marguerite ne fait pas exception à la règle, c'est-à-dire que la majorité des espèces de fleurs possèdent soit 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 pétales. Ainsi, en effeuillant une marguerite, vous pouvez presque être sûr de ne jamais tomber sur pas du tout. Mais les fleurs ne sont pas les seules à obéir à cette loi. Si l'on regarde un ananas, les écailles sur sa peau semblent former des spirales. Si on prend le temps de les compter, on en observe 8 dans un sens et 13 dans l'autre, qui sont encore deux nombres de la suite de Fibonacci. Il en est de même pour les pommes de pin. Le nombre de spirales dépend de l'espèce du conifère. Pour le pin blanc, on observe 3 spirales dans un sens et 5 dans l'autre. Les cônes d'autres variétés de conifères peuvent avoir 5 spirales dans un sens et 8 dans l'autre, ou encore 8 dans un sens et 13 dans l'autre. Bref, en tout cas, que des nombres de cette suite de Fibonacci. Mais alors, comment se fait-il que l'on retrouve cette suite chez les végétaux, et plus particulièrement en phyllotaxie ? Alors, la phyllotaxie, c'est l'étude de la disposition des pétales, des feuilles, ou des pétales et des feuilles chez les végétaux. Donc, c'était que récemment que Douaidi et Queder ont donné une explication à ce phénomène. Remarqué il y a très longtemps déjà par le biais d'une modélisation mathématique. L'explication est la suivante. Pour que l'ensoleillement soit maximum, le deuxième pétale ou la deuxième feuille qui apparaît s'éloigne le plus possible du premier. Et puis, au fur et à mesure que les bourgeons apparaissent, chacun essaie de s'éloigner au maximum du précédent. Après un raisonnement mathématique poussé, on peut démontrer que ce processus produit un nombre final de pétales dans la fameuse suite de Fibonacci. C'est pourquoi le trèfle porte-bonheur, par exemple, est si rare. Le 4 ne s'y trouve pas. Et cela est dû à un petit dysfonctionnement génétique. Une dernière remarque que l'on peut faire sur cette suite est que si maintenant on regarde les quotients de la forme 2 sur 1, c'est-à-dire le deuxième nombre sur le premier, 3 sur 2, le troisième nombre sur le deuxième, 5 sur 3, le quatrième nombre sur le troisième, etc., 8 sur 5, ou encore 13 sur 8, on obtient une suite qui converge vers le nombre d'or. Ce nombre est très connu en art, notamment car il est signe d'harmonie et d'esthétique. Un argument est sa présence dans de nombreux chefs-d'œuvre comme la Joconde, le Parthénon, la pyramide de Khéops, bref. Alors voilà, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles ou même messieurs, si un homme vous présente une belle marguerite, ne soyez pas dupes. Demandez-lui plutôt un artichaut, la croissance de ses feuilles est soumise elle aussi à la contrainte de Fibonacci, mais au moins vous verrez si réellement il a le cœur tendre. Oh.
Jamais sur terre il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Le ciel avait pourvu des mille appâts qui vous font prendre feu dès qu'on y touche. La navette, tant que je ne savais pas, ne savait plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à l'âme un mal funeste. Et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent J'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache puis qui vous mène par le bout du cœur.
Et vous venez d'entendre Une jolie fleur dans une peau de vache, interprétée par Georges Brassens. Alors attention, la transition qui dénonce grave des peaux de vache, il y en a beaucoup en politique, n'est-ce pas? Et Jules Barthélémy le sait très bien. Et tu vas nous en parler dès maintenant, puisque c'est
on va continuer à parler d'amour. Ah.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Europolis.
Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons achever notre tour d'Europe en nous arrêtant un peu sur le résultat des élections européennes. Vous le savez sans doute, ces élections furent en France et en Europe l'occasion d'une participation plus importante que d'habitude. Alors on est loin des taux de participation aux élections nationales, mais ça marque d'ores et déjà une rupture avec la tendance qu'ont les Européens à être de moins en moins nombreux à exercer leur droit de vote. Alors, qui a bénéficié de ce regain de participation? Difficile à dire, les résultats démontrent plusieurs dynamiques qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui débouchent toutes sur un événement majeur, car pour la première fois, les deux principaux groupes au Parlement européen n'ont pas la majorité absolue des sièges à eux deux. Ces deux groupes, ce sont le PPE, Parti Populaire Européen, qui est représenté en France par les Républicains, et le PSE, Parti Socialiste Européen, qui est représenté en France par le Parti Socialiste. Alors, bien qu'ils soient toujours les deux principaux groupes au Parlement, avec environ 178 sièges pour le PPE et 153 pour le PSE, ensemble, ils n'obtiennent en fait au total qu'à peu près 330 élus, alors qu'il en faut 376 pour avoir la majorité. Et donc ces deux groupes, pour la première fois, vont devoir former une alliance avec au moins un troisième groupe. Parmi ces autres groupes, hein, il faut évoquer la progression de la droite libérale et du groupe ALDE, Alliance des libéraux et démocrates européens, qui est représenté en France par En Marche et le Modem. Et ce groupe est le troisième du Parlement avec 105 élus, et il y a très fort à parier que ce groupe va participer sous peu à une majorité, en fait avec le PPE et le PSE, puisque quand on observe les négociations sur la tête de la présidence de la Commission européenne, hein, qui est une fois la fonction politique la plus importante à l'échelle de l'Union européenne. Ça confirme que ça se passe entre ces trois forces politiques-là. Les principaux candidats sont soit l'Allemand Manfred Weber, qui est le candidat donc, du PPE, le Hollandais Frans Timmermans, qui est candidat du PSE, et la Danoise Margrethe Vestager, qui, elle, est candidate de l'ALDE. Alors, la tendance politique de la majorité européenne, en fait, change assez peu, même si, et en réalité, on va surtout assister à des changements dans les équilibres de groupe, mais d'un point de vue politique, ça ne changera pas grand-chose. Au-delà de l'ALDE, on a un autre groupe qui est évoqué pour rejoindre la majorité. Il s'agit du groupe Vert et ALE, hein, pour Alliance Libre Européenne. C'est un groupe qui a gagné 22 sièges pour en rassembler à peu près 74 aujourd'hui. Les Verts ont réalisé de belles performances, surtout en Allemagne et en France. Et globalement, ils forment une force politique importante au nord et à l'ouest de l'Europe. Mais cette percée, elle va être limitée, en fait, en raison d'une quasi-absence, en fait, des écologistes au sud et à l'est de l'Europe. Alors, ça n'empêche pas ce groupe de sortir renforcé et d'être évoqué comme un potentiel partenaire. Cependant, les positions des différents membres du groupe vert européen sont très divergentes sur la question de savoir s'allier avec la droite, le centre et la gauche. Donc, difficile aussi, pour le moment, de dire ce qu'il en sera des groupes souverainistes, nationalistes et traditionnalistes. Ces groupes ont globalement gagné des sièges, notamment le groupe nationaliste ENL, avec environ 58 sièges, notamment les élus RN et de la Ligue italienne. À côté d'eux, le groupe souverainiste ELDD, qui progresse aussi avec 54 sièges, et notamment le parti Brexit de Nigel Farage. Alors la poussée de l'extrême droite et de la droite souverainiste fait rêver Le Pen et Salvini d'un grand groupe qui rassemblerait eurosceptiques et nationalistes. À côté, un peu moins à droite, le groupe CRE, conservateurs réformistes européens, sont des traditionnalistes, ils sont environ 64, notamment le PiS, qui est le parti qui gouverne en Pologne, et ou le parti Vox, néo-franquiste, en Espagne. Alors, on pourrait imaginer qu'ensemble, ils formeraient le principal groupe politique du Parlement européen, mais en fait, s'allier avec Le Pen et Salvini, en fait, même quand vous êtes un traditionnaliste polonais, ça n'est pas forcément très bien vu. Surtout, les Brexiteurs britanniques excluent d'office tout rapprochement avec l'extrême droite en France et en Italie. Et donc, très improbable d'imaginer que ce projet voit le jour dans l'immédiat. Alors, pour finir, le groupe GUE-NGL, un gauche unitaire européenne et gauche verte nordique, qui est représenté en France par les Insoumis, ce groupe a perdu 12 sièges pour n'en rassembler maintenant plus que 38. Et ce, en raison des mauvais scores de ses partis moteurs, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, les Insoumis et communistes en France et Die Linke en Allemagne. A priori, donc, ils ne feront pas partie de la future majorité. Alors, de ce panorama, on retient que ces résultats ont conduit à l'intégration des libéraux comme partenaires d'une grande coalition avec les socialistes et les conservateurs. Et la tête de la commission pourrait se jouer éventuellement entre ces trois partis, mais il pourrait y avoir également, s'il y avait un blocage, une autre personne qui serait désignée. Ce sera ce que vont donner les négociations. Ça va être très intéressant de voir si les partis, en se mettant d'accord, désignent quelqu'un ou si ce sont les chefs d'État qui, à la fin, décident. Les Verts également pourraient être de cette majorité, mais pour l'instant, rien n'est certain. Pendant ce temps-là, en tout cas, à la droite de la droite, il va bientôt se jouer un jeu très étrange, car ces élections, il y avait quand même un cas assez particulier, celui du Royaume-Uni. Avec le report du Brexit, ça aura conduit les Britanniques à avoir à désigner des élus qui vont possiblement ne siéger que quelques mois. Et lassés un peu par la situation politique, les Britanniques ont voté de manière complètement inédite. Les Brexiteurs, en fait, ont formé un parti en l'espace de quelques jours, et ce parti a obtenu la majorité des voix. Derrière, les libéraux et les verts, qui sont des partis assez faibles, ont eu des scores assez élevés, et les partis traditionnels sont effondrés. Alors, la délégation britannique, donc, a un impact, mais elle va bientôt disparaître, et ça va changer des choses. Après le Brexit, les Verts et les Libéraux vont perdre en importance. Par contre, les groupes habituels, socialistes et conservateurs, vont voir leur importance augmenter. Mais c'est surtout, en fait, bien à droite qu'il va falloir regarder, parce que les Brexiteurs excluent tout un rapprochement entre souverainiste et nationaliste, mais s'ils disparaissent, le groupe souverainiste va exploser. Et dans ce cas-là, il va se jouer un jeu de chasse au parti souverainiste qui pourrait renforcer, en fait, soit le groupe des traditionnalistes CRE, soit les nationalistes de l'ENL. Et donc, il va y avoir du mouvement à l'extrême droite, un mouvement qui ne va pas avoir un impact immédiat sur la politique européenne, puisqu'ils sont extrêmement minoritaires. Mais par contre, plus le groupe est important et plus les moyens financiers des partis qui composent ce groupe sont importants, et ça peut avoir un impact à terme sur certains pays européens. Alors, dernier enseignement de ce scrutin, c'est que le vote pour les petits partis est en progression, hein, notamment en Allemagne, près de 13% des Allemands qui ont voté pour de tout petits partis, et aussi en France avec près de 20%. En Espagne, c'est aussi le cas, mais de manière plus traditionnelle, avec les nombreux et divers partis locaux autonomistes ou indépendantistes. Je termine justement sur l'Espagne avec des nouvelles d'une vieille connaissance. En même temps que les européennes se jouaient des élections municipales en Espagne, alors à Barcelone, la maire sortante Ada Colau, un proche de Podemos qui est allié des Insoumis en France, est arrivée deuxième derrière Ernest Maragall, le candidat de la gauche indépendantiste. A priori, le poste devait revenir à l'indépendantiste dans une alliance avec la maire sortante. Sauf que Manuel Valls. Désigné tête
pourquoi
de liste.
Pourquoi les gens rigolent quand on entend le nom de Manuel Valls?
Déjà, pourquoi il est encore vivant? Et deux, qu'est-ce qu'il fout là-bas?
Eh bien justement, désigné tête de liste de la version locale de Ciudadanos, hein, il est arrivé quatrième. Son parti, en fait, a priori, exclut toute alliance avec la gauche, même modérée. Sauf que Manuel Valls a déclaré il y a peu soutenir sans contrepartie l'investiture de la maire sortante issue de la gauche anticapitaliste pour empêcher les indépendantistes de gouverner. Alors sa position provoque une grande circonspection, hein, notamment dans son propre parti, dont il n'est élu que depuis deux semaines.
Il a l'habitude de provoquer.
Voilà. Les Espagnols découvrent.
De provoquer la circonspection, c'est ça ?
Circonspection. Notons quand même qu'Ada Colau, la mère anticapitaliste, n'a pas fait la fine bouche et a accepté ce soutien, ce qui a aussi déclenché la colère des indépendantistes, là où Manuel passe. C'est sur cette anecdote que nous nous quittons. Alors à cette élection européenne, le résultat ne peut se résumer seulement aux dynamiques européennes. Il tient également en grande partie de dynamiques nationales qui ont des conséquences européennes. Est-ce que c'est complexe ? Un peu, mais pas tellement. Nos systèmes politiques sont variés, issus de contextes historiques particuliers qui répondent à des enjeux différents. Mais pourtant, nous partageons politiquement un attachement au choix, au droit de choisir les personnes qui détiennent le pouvoir. Selon les États, ce pouvoir se répartit différemment, les détenteurs sont désignés différemment, mais nous avons toujours un choix. Le choix d'hier est passé, mais la politique et les moments de choix continuent à travers l'Europe. Et notre droit de choisir est notre précieux pouvoir commun à travers l'Europe. Tâchons de le préserver et de l'utiliser.
Ah, oh, c'est beau.
Et vous venez d'entendre « Aux armes, etc. » interprété par Serge Gainsbourg. Alors on va laisser les armes et les bulletins de vote de côté. Nous allons reprendre les fleurs, ou du moins les plantes, avec Amélie Tribault, puisque c'est l'heure du 8 minutes avec. Donc Amélie, rebonsoir, rebonjour.
Rebonsoir.
Donc, je rappelle le sujet de ta thèse, valorisation de la lignine des effluents de pré-traitement de biomasse forestière, de points élaboration et caractérisation d'agrocomposites. Alors, on va mettre la thèse de côté quelques instants. D'abord, avant de parler le fond du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Comment en es-tu arrivé à faire une thèse, d'ailleurs, dans quel domaine, du coup ?
Sciences des matériaux, au sens large, ouais.
D'accord.
Alors, mon parcours, depuis quand ? La maternelle ou...
Non, tu peux commencer après le lycée, par exemple, après le bac.
Après un bac S, j'ai fait 2 ans de prépa en physique-chimie. J'ai passé les concours pour intégrer une école d'ingénieurs et ensuite j'ai intégré CPE Lyon, donc une école de chimie et génie des procédés à Lyon. Et j'ai fait aussi une année de césure à l'étranger, aux Pays-Bas, chez AkzoNobel, donc le leader mondial de la peinture, où j'ai travaillé dans la formulation et l'analyse de peinture pour les voitures.
D'accord, donc, on est assez éloigné de ton sujet de thèse.
Ouais. Et puis ensuite, c'est venu assez tard quand même l'envie de faire une thèse. Je savais que je voulais travailler dans la recherche, ça c'était sûr. Mais en fait, c'était vraiment à la fin de mes études que je me suis décidée à faire une thèse. Parce que j'avais envie de pousser un peu plus la recherche. Voilà.
Et du coup, le sujet de thèse, il est arrivé comment ? C'est toi qui l'as choisi ?
J'avais un projet professionnel assez précis. Depuis à peu près 18 ans, je savais que je voulais travailler dans le domaine de l'environnement. Et donc, j'étais assez intéressée par le domaine de la chimie verte. Alors, c'est très large quand même comme secteur d'activité. Et petit à petit, donc ça s'est ciblé vers les matériaux biosourcés, et puis cette thèse qui est encore plus spécifique.
Effectivement, puisque donc là, on parle justement précisément de la lignine, c'est ça ?
Un composé en particulier.
Qu'est-ce que c'est que la lignine, du coup ?
La lignine, c'est la deuxième grosse molécule la plus abondante à la surface de la Terre. Pourtant, elle n'est pas très connue. Deuxième après la cellulose, parce que ça constitue, c'est un des constituants de tous les végétaux. On la trouve dans les parois cellulaires, et principalement dans le bois. C'est dans le bois qu'il y en a le plus, parce qu'en fait, c'est une très très ancienne molécule qui a permis aux arbres de s'élever en hauteur. Ça rigidifie les parois cellulaires, et donc dans le bois, il y en a à peu près 30%. Et ça les protège des attaques de micro-organismes, par exemple. Enfin, ça a plein de fonctions dans les arbres.
C'est un peu partout dans le bois ou c'est plus spécifiquement l'écorce ?
C'est dans les parois cellulaires et dans les écorces, il y en a le plus. Et c'est lié avec d'autres molécules pour faire un réseau assez compliqué et hétérogène.
D'accord. Et donc, dans ta thèse, tu parles de valorisation de cette lignine. Alors, pourquoi valoriser et dans quel sens ?
Parce que c'est un déchet industriel. Parce que, par exemple, quand on produit du papier, on récupère les sucres du bois, on récupère la cellulose pour faire du papier, mais pas la lignine. Et donc, il y a à peu près 30% de déchets, si on veut. Et c'est brûlé. Ce qui permet donc de récupérer une énergie calorifique et puis d'être autonome en énergie pour les papeteries. Après, il y a tout le domaine des biocarburants, où là encore, on est intéressé par les sucres et pas par la lignine. Donc, c'est pour ça qu'on dit valoriser, parce que c'est pour lui trouver d'autres applications que de la brûler.
D'accord.
Pour l'énergie.
Donc parce que pour l'instant, est-ce qu'il y a quand même des idées sur comment est-ce qu'on pourrait valoriser ?
Il y a énormément d'idées. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux et de données dans la littérature. Parce que de par sa structure complexe, on a envie de la valoriser pour toutes les applications possibles et inimaginables.
Quelles sont ses qualités, en fait ?
Elle a une structure chimique intéressante où on peut retrouver des groupes fonctionnels qui peuvent être intéressants pour faire les réactions chimiques qu'on veut. C'est une source de groupements aromatiques, on dit. Donc, c'est 6 atomes de carbone qui forment un cycle avec des doubles liaisons. Et ça, c'est intéressant, par exemple, en pharmacie. Dans beaucoup de médicaments, on retrouve ces cycles aromatiques. Dans les vernis, les résines. Donc, c'est une source, en fait, déjà toute prête de groupements chimiques qui pouvaient être intéressants.
D'accord. Et donc, toi, tu t'intéresses à un domaine spécifique de valorisation,
ouais,
du coup, dans ta tête ?
Assez spécifique, le domaine des matériaux composites.
Ok. Et donc, alors, qu'est-ce que les matériaux composites ?
Eh bien, donc, un matériau composite, c'est plusieurs constituants pour que ce soit composite. Et donc, vous avez sûrement entendu parler des fibres de carbone, des fibres de verre. Et ben, c'est ça qui va rendre le matériau un petit peu renforcé. Donc, dans un matériau composite, il y a des renforts, des fibres. Et puis, il y a aussi un liant, un peu, on peut imaginer une colle qui va imbiber tout ça. Et ça va donner des propriétés supérieures à ce matériau que juste le liant tout seul ou les fibres toutes seules. Ouais. Donc, c'est intéressant pour plein de domaines de l'industrie.
D'accord. Et donc, du coup, justement, dans ta thèse, je crois que tu parles de la rafle de maïs broyé.
Ouais.
Donc, c'est ça, c'est les deux
c'est
composants.
C'est ça, les fibres qu'on a choisi d'utiliser. Parce que le sujet de thèse, c'est développer un matériau biosourcé, donc d'origine végétale. Mmh. Et donc, les rafles de maïs, c'est là aussi un sous-produit qui est peu valorisé. Et en fait, ça a des propriétés intéressantes.
D'accord. Et donc, pour l'instant, pour en faire quoi, du coup, avec ces deux matériaux ? Est-ce qu'il y a des applications déjà auxquelles vous avez
Le challenge, c'était de réussir à les mettre en forme pareil que les plastiques de l'industrie actuelle. Donc, essayer d'utiliser les mêmes procédés. Donc, en fait, le but, ce serait de pouvoir remplacer des plastiques, tous les objets moulés de la vie du quotidien. Voilà, ça peut être pour des meubles. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui me passent par la tête. Des pièces automobiles, de l'intérieur des voitures, par exemple.
Parce que, du coup, de par leur origine végétale, ils sont beaucoup moins polluants.
C'est moins polluant, ça consomme moins de ressources, ça consomme pas de ressources fossiles. Donc aujourd'hui, avec l'épuisement des ressources fossiles, il faut trouver de nouvelles solutions de ce type. Ça peut piéger le CO2, ce type de matériaux. La lignine est antioxydante, donc là, ça peut aussi avoir des applications intéressantes. Le fait d'ajouter des fibres végétales, ça allège la structure des matériaux. Donc, si on pense au domaine de l'automobile, eh ben, c'est moins de consommation de carburant. C'est très, très vaste. Et pour l'instant, on n'est pas ciblé sur les applications, mais plutôt la mise en œuvre et démontrer une preuve de concept.
D'accord. Et donc, du coup, justement, concrètement, dans ta thèse, toi, qu'est-ce que tu fais, finalement ? Est-ce que tu essayes de les assembler et voir comment ça marche ?
C'était très expérimental au début. Avec quand même la méthode et la rigueur scientifique, mais il faut tester, il faut voir les bonnes associations, quels sont les solvants ou les plastifiants adaptés. Voilà, donc un petit peu de formulation. Et puis, beaucoup de méthodes de mise en œuvre. Donc, trouver les bons procédés qui vont être adaptés à ce mélange et aussi faire des partenariats, voilà. Trouver là où tester les mélanges.
Donc, en fait, tu es vraiment dans un laboratoire avec une blouse blanche et des pipettes et...
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Le mathématicien qui dit « Ah, t'es dans un vrai laboratoire !»
Après, pas tant que ça, mais oui, la blouse de temps en temps... pas tout le temps, quand c'est plus le côté mise en œuvre, matériaux, là, il faut plus imaginer le bleu de travail et les chaussures de sécurité. Mais quand on travaille avec des enzymes, des micropipettes, là, c'est plus précis.
En fait, c'est la seule parmi nous à être une vraie chercheuse scientifique qui ressemble vraiment à ce que les gens s'imaginent être un chercheur scientifique.
Donc, c'est pas une théoricienne, quoi.
Parfois, j'essaye de théoriser les résultats, ouais.
Il faut un peu, au début, ouais, au moins.
Trouver des lois, ouais.
Et du coup, est-ce que tu arrives déjà à des résultats plutôt probants ou,
Assez vite, on a eu de bons résultats. Donc, je m'y attendais pas à si vite avoir une preuve de concept où on pouvait proposer des applications. Après, c'est bien sûr à améliorer, hein. C'est pas tout de suite qu'on va faire une mise sur le marché ou c'est pas le but de la thèse, mais je suis plutôt satisfaite des matériaux obtenus. Enfin, faut continuer quoi.
Très bien, eh bien je te souhaite bonne continuation dans ces cas. Bon courage.
Ouais, merci.
Merci. Et vous venez d'entendre Annecy interprété par Casey Lambist. Pas besoin d'aller jusqu'à Annecy pour passer un bon mois de juin-juillet. C'est Quentin qui va nous le prouver dès maintenant avec son agendoc.
L'agenda du doctorant, c'est l'agendoc.
Et voici le dernier agendoc de cette saison. Déjà, je voulais vous faire un petit retour sur la sortie du dernier épisode de la web-série « Les chercheurs se mettent à nu » des associations Doctovergne et Astuscience. Le cinquième épisode, que vous trouverez sur YouTube sur les chaînes des deux associations, suit le parcours de Maha Issaoui, doctorante en sciences de la santé franco-tunisienne, engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans l'accès aux métiers scientifiques. Une soirée de projection d'avant-première avait lieu vendredi dernier, suivie d'un plateau en direct par Radio Campus, le tout accueilli par le Crous Clermont-Auvergne dans ses locaux. L'épisode a eu beaucoup de succès, ainsi que l'émission en direct qui a suivi sur les ondes de Radio Campus. Des universitaires et des acteurs et actrices institutionnels ou associatifs de la culture, du sport ou de l'éducation ont pu débattre avec la salle des obstacles et moyens d'ouvrir les métiers scientifiques aux femmes. Alors en attendant le sixième épisode, courez voir les cinq premiers, et s'ils vous ont plu, faites tourner. Je vois Arnaud qui rigole dans un coin là, parce qu'il y est déjà passé. En parlant d'égalité femmes-hommes, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais la Coupe du Monde féminine de football vient de commencer en France, pour la première fois. L'occasion de soutenir une belle équipe de France qui a mis 4-0 à la Corée du Sud la semaine dernière et qui rencontre à 21h ce soir la Norvège. Mais aussi l'occasion de casser un peu les vieux clichés bien gras que l'on entend encore souvent sur les femmes qui seraient incapables de produire du beau jeu et de se donner à fond juste pour le plaisir de la compétition sportive. N'allumez pas ces news, s'il vous plaît. Les phases de poule dureront jusqu'au 20 juin et les phases finales prendront le relais jusqu'au 7 juillet. Souhaitons bonne chance aux Françaises et petit clin d'œil à Ludivine, ancienne présidente de Doctovergne, qui a assuré l'agendoc à ma place l'an dernier et qui est une grande amatrice de jeux de ballon au pied. Pour continuer dans la fibre sportive, il est inutile de rappeler à des Clermontois que leur équipe est en finale du top 14, le championnat national de rugby. Avec une finale de rêve, le Crunch National ASM contre Stade Toulousain au Stade de France samedi soir. Le club qui a le plus buté contre la finale, 11 fois, désolé Clermontois, faut quand même le rappeler, contre le club le plus titré de France, 19 fois champion. Ça promet d'envoyer du lourd et la place de Jaude sera évidemment pleine à craquer pour regarder le match sur l'écran géant installé par la mairie. Côté musique, l'été arrive et c'est bien sûr la fête de la musique, le vendredi 21. Il y aura comme d'habitude des scènes un peu partout dans la ville. Ambiance pop, chanson, place de Jaude, musique traditionnelle au Jardin Lecoq, plutôt rock, blues, place de la Poterne, une scène électro au Square d'Assas devant la préfecture, un DJ set musique créole et africaine, place du Mazé, et une scène Radio Campus, place de la Victoire, avec une programmation afro-américaine. Toujours dans l'ambiance musique, ce sera ensuite le rendez-vous annuel du festival EuropaVox qui reviendra. 40 artistes de 18 pays se succéderont du jeudi 27 juin au dimanche 30 à la coopérative de mai et place du 1er mai. L'ouverture du jeudi sera gratuite. Quelques textes d'affiche, évidemment, en chansons françaises pop, nous aurons Eddie de Preto, Jeanne Haddad ou Clara Luciani, mais aussi du rock avec Franz Ferdinand, du hip-hop avec Nekfeu ou encore de l'électro avec Kid Ismail. Mais aussi des tas de groupes talentueux moins connus, venus de Norvège, d'Estonie ou du Portugal. Et pour les doctorants et jeunes chercheurs d'Auvergne, nous nous retrouverons le mercredi 3 juillet au bar Le Gavroche pour notre Doctover mensuel qui continue également l'été. Amusez-vous bien.
Des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade, ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever, faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais, moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM, climat fond 300 à l'heure, total GPS, GSM, vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps, faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète.
J'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entreturaient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Ni quand la planète, ni quand la planète, ni quand la planète, ni quand la planète est tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié, vu que de façon on va tous crever. Objectif en tête, niquons la planète.
Faisons l'amour à la terre, des tonnes de pétrole dans la mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Ni quand la planète,
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 c'est le mur à terre,
ni quand la planète,
moi c'est comment nous donner la planète,
et tant qu'à faire, faisons bien, faisons pas les choses à moitié.
C'est ma raison d'être.
Et vous venez d'entendre, pardon, nous étions en pleine discussion, HK et les Saltimbanques avec la chanson Niquons la planète, hein, c'est ça Quentin?
C'est ça.
Alors je, justement, en rapport avec cette chanson très engagée que je n'ai pas écoutée, il y a aussi, Quentin, le village Alternativa au Jardin Lecoq ce samedi 15. Alors, vous avez le programme hein, sur le site Alternativa. Vous tapez Alternativa, clairement, vous avez tout le programme. Je suis en train de regarder en ce moment même. Ça commence à 10h30, voilà, au Jardin Lecoq, jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 21h30, avec un baltrade pour terminer ce programme à la fois festif, culturel et engagé. Voilà. Quant à nous, c'est déjà la fin de l'émission, c'est aussi la fin de la saison 5 de Quoi de Neuf Doc, puisqu'on ne se retrouvera pas en juillet. Pour ma part, oui, j'ai une rédaction de thèse à terminer quand même, c'est quand même ça le plus important. Merci Amélie pour ta présence, merci Jules, Arnaud, Quentin pour les chroniques et la technique, vous avez été super toute l'année. Merci aussi à Marine qui a été présente sur la première partie de la saison avant de s'envoler, je crois, vers le Grand Nord alsacien. Je ne sais pas si finalement elle s'est envolée ou pas.
Non, finalement elle ne s'est pas envolée.
Et un grand merci à toi Olivier.
On la salue quand même.
Et on remercie quand même beaucoup Olivier et Arnaud qui vont nous quitter
l'an prochain.
En tout cas sur Radio Campus, puisqu'on leur souhaite de soutenir... rapidement leur thèse.
C'est prévu. La date est fixée. Ouais.
Faut laisser la place aux jeunes.
Aux petits jeunes, ouais, merci. Alors, si vous voulez réécouter l'émission ou que ça vous a donné envie d'écouter les émissions des saisons précédentes, vous pouvez le faire en podcast disponible sur le site internet de Radio Campus ou sur le site de l'association Doctovergne, www.doctovergne.fr. Site sur lequel vous pourrez retrouver aussi tous les autres projets qui sont organisés par l'association. Pour ma part, je vous souhaite donc un bon mois de juin, un excellent été et peut-être retrouverez-vous une nouvelle équipe en septembre, octobre pour une nouvelle saison de Quoi de Neuf Doc.
On espère quand même.
On espère, on croise les doigts.
Vous venez d'écouter Quoi de Neuf Doc, l'émission de Doc Tauvergne.